16h36, déjà, ça va vite dans le retour? Est-ce que ça va vite dans le trafic? Peut-être un peu moins, là.
Bien, peut-être vous dire que, pour commencer, ce qui était de l'accident là, sur Duplessis et sur Henri IV Sud, c'est terminé. Par contre, il y a un accident sur la 40 Ouest à la hauteur de Duplessis, Charest, donc la voie de gauche qui est bloquée en ce moment. Les policiers qui sont sur place, ça congestionne énormément. Le Capitale, direction Ouest, à la hauteur de Robert Bourassa, c'est bordélique, direction Ouest. C'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. D'ailleurs, Laurentienne, entre la Capitale et Jean Talon, c'est complètement congestionné. Robert Bourassa, direction Nord, à peu près, je vous dirais, entre Versant Nord, mettons, et la Capitale, super difficile de circuler. Charest, direction Est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa. Ouest, entre Robert Bourassa et Duplessis, dû à l'accident de tantôt, il y a encore des petits risques du trafic. Si vous êtes sur Henri IV Nord, entre Wilfrid Hamel, puis à peu près Sainte-Geneviève, quand on approche Val-Bélair, c'est au ralenti, direction sud, toujours sur Henri IV. À partir de Charest, il y a des ralentissements jusqu'à l'entrée du pont. Si vous êtes sur Duplessis-Sud, de Quatre-Bourgeois au pont, c'est compliqué de circuler. Et la 20, direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata, toujours au rouge. Quoi que ce soit, 88-971-1021 texto.
L'accident réseau local, l'avais-tu mentionné? Puisque sur le texto, on nous demandait ce qui se passait dans le secteur de la Morée. Fait qu'on est dans le Bourgneuf, là, au nord de Robert Bourassa. Boulevard Bastien, près de l'avenue Chauveau. C'est fermé entre l'avenue Chauveau et l'avenue L'Espérance. Il y a un accident dans le secteur.
À tous les midis, on s'accote sur le coin du bord avec Marceau, puis on fait le pit stop, on jase d'actualité, puis on fait le tour, évidemment, des trucs qui retiennent l'attention. Donc, sans surprise, ce midi, on a parlé de l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon, puis on essayait ensemble de mesurer l'héritage positif ou négatif de Fitzgibbon, puis j'ai comme fait un aveu d'ignorance parce que moi, les notions économiques de qu'est-ce que doit faire un gouvernement au niveau économique pour les entreprises, pour l'avenir de la province, la vision et ainsi de suite, j'ai pas les connaissances nécessaires pour être en mesure de juger ça. Fait que j'ai comme fait un aveu d'ignorance ce midi qui m'est resté sur le cœur un peu quand même. Puis là, je me disais, mon Dieu Seigneur, si seulement je connaissais un docteur en économie, qui a écrit sur Pierre Fitzgibbon dans les 24 dernières heures dans le Journal de Québec. Si seulement j'en connaissais un. Et justement, j'en connais un, Francis Gosselin. Salut, Francis.
Lui-même en personne, écoute.
Ça va bien?
Ça va très bien, vous.
Oui, est-ce qu'on est en mesure de parler d'un héritage Fitzgibbon?
Ben, on peut parler de ce qu'il a fait, puis c'est quand même pas rien. J'ai quand même envie de rappeler aux gens qui ont été très critiques à son égard que de piloter l'économie québécoise pendant la pandémie, ça n'a pas dû être une mince affaire. On a élu la CAQ, un parti de comptables, d'entrepreneurs, de gens d'affaires, pour justement un peu dynamiser l'économie québécoise, puis sitôt arrivé, sitôt mis sur pause, avec toutes sortes d'enjeux, évidemment, autour de ça. Fait que c'est sûr que ça n'a pas été facile. Ceci dit, j'ai plutôt envie de dire que ça a été quand même un bon ministre. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait et toutes ses orientations, mais en termes d'attraction, d'investissement étranger, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un ministre de l'économie aussi actif pour attirer des grosses business qui sont venus s'installer ici. C'est une bonne chose, ça crée de l'emploi, ça ramène de la technologie et tout ça. Puis pour les PME québécoises aussi, là, on a beau critiquer là, les investissements d'Investissement Québec, puis toutes les subventions, ça reste qu'il y en a beaucoup qui s'est allé à des entrepreneurs du Québec qui ont pu se développer puis créer des emplois, de la richesse et tout. Fait que ça a été une bonne période, somme toute. Là.
Il y a des choses qui reviennent beaucoup, par contre, au niveau des critiques. Puis ça, je veux avoir ton son de cloche là-dessus. Nordvolt, c'était-tu un bon pari économique pour le gouvernement?
Ben, c'est cette partie-là sur laquelle je pense que là, ça fait 24 heures qu'on sait qu'il quitte le gouvernement. On peut difficilement faire le bilan de Nordvolt ou de la filière batterie ou de tout ça. Je veux dire, les usines sont en train d'être construites. Nordvolt, on sait, là, ça a du retard, puis dadaï, mais à la fin, il va falloir se donner 5 ou 10 ans pour le savoir. Puis même. J'en parlais hier, à la limite, si M. Fitzgibbon avait au moins fini le mandat de la CAQ là, dans à peu près 2 ans, on aurait déjà eu une bien meilleure idée de où ça va atterrir, c'est-à-dire plusieurs usines vont être opérationnelles, les emplois vont être créés, est-ce que ça va sortir des produits que les gens veulent acheter ou que les autres entreprises veulent acheter? aujourd'hui, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des grues puis qu'il y a des poutres d'acier qui se baladent, mais tu sais, c'est un succès? Bien sûr que non, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire.
Francis, une des choses qui revient parmi les théories qui expliquent un départ précipité, c'est pas parce que ça agaçait le premier ministre qu'il veuille quitter en décembre. C'est peut-être sa vision de la distribution de l'énergie, sa vision d'Hydro-Québec en particulier, où le papier est un peu plus sablé. Puis, tu avais de bonnes réflexions ce matin dans le journal là-dessus. Je veux t'entendre.
Ben moi, c'est vraiment là-dessus où je m'oppose un peu à cette vision-là qu'avait M. Fitzgibbon. Puis en tout respect, là, t'sais, il a le droit, puis évidemment plus que moi en tant que ministre de l'énergie, mais pour moi, cette idée de développer beaucoup, beaucoup de nouvelles énergies, là, c'est le projet d'Hydro-Québec depuis l'arrivée de Michael Sabia, cette idée d'augmenter les tarifs, hein, puis bon, je le dis souvent, moi je pense qu'il faut augmenter les tarifs, mais on le fait, je pense, ou en tout cas selon la vision de M. Fitzgibbon, pas pour les bonnes raisons. Et c'est là où ce que j'écrivais dans le Journal de Québec ce matin, c'est qu'en fait, on nous a demandé de nous priver, de payer plus cher, on veut construire plein de nouveaux barrages, puis de nouvelles... Pourquoi? Essentiellement, dans la vision de M. Fitzgibbon, pour donner cette énergie-là à des entreprises étrangères, pour les attirer chez nous. Je pense pas que ça soit la meilleure façon de créer de la valeur dans l'économie québécoise. Tu sais, on donne cette énergie-là des fois à 3, 4 cents le kilowattheure, tu sais, alors que nous, à la maison, on la paye 7, 8, 9, 10 cents. C'est sûr que si moi je prends ma douche à 8 heures le soir, c'est pas pour que tu ailles la donner à Joe Blow, Norvège ou Afrique du Sud, là, tu comprends? Évidemment, M. Fitzgibbon aurait dit que ben, ça crée des emplois payants, là, tu sais, qu'on pense à toutes ces, justement, ces Nordvolt, les alumineries, les aciéreries. Tu sais, c'est pas des petits jobs, là, c'est des gros jobs industriels. Il y en a moins qu'il y en avait de ces jobs-là. Donc, c'est sûr que c'est une certaine vision, mais moi, le terme là, de Dollarama de l'électricité qu'on a beaucoup vu circuler, il me m'hérisse le poil un petit peu, Denis. Tu sais, fait que c'est là où, comme je dis, moi, j'acquiesce avec la vision un peu sobriété, mais je pense que ça devrait être pour vendre, mettons, au Massachusetts à 12-15 cents du kilowattheure au lieu de la donner à des entreprises étrangères.
Tu fais référence à l'ancienne PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, en sous-entendant que le temps va peut-être lui donner raison. Elle, c'était quoi sa vision pour Hydro-Québec?
Ben, c'était celle-là. Puis en tout cas, encore une fois, moi, je ne suis pas mêlé à tout ça, mais j'y adhérais plus à cette vision-là. Comme je le dis, c'est oui, on va développer des nouvelles capacités de construire. Oui, on va augmenter un petit peu les tarifs pour que les gens fassent plus attention et tout ça. Mais on va le faire pourquoi? Pour investir dans notre économie, pour décarboner le Québec, pour vendre peut-être aux États-Unis puis leur permettre à eux de décarboner leur production énergétique. Sinon, de doubler la taille d'Hydro-Québec puis de donner cette énergie additionnelle-là à des entreprises étrangères. Je comprends qu'ultimement, ça génère des jobs et des profits, mais c'est beaucoup plus incertain. Puis j'ai pas envie, moi, en tant que Québécois, là, d'être perçu comme le cheap energy, t'sais, à l'échelle mondiale. J'aurais plutôt envie qu'on soit perçu comme une énergie de qualité, puis qu'il faut la payer au prix qu'elle vaut, c'est-à-dire une énergie verte, renouvelable, perpétuelle. Ça vaut cher dans ma tête à moi, là.
Francis, je lisais les textos ce midi pendant qu'on jasait de Pierre Fitzgibbon, puis du rôle du super ministre de l'économie, puis je vois qu'il y a comme des visions qui sont radicalement différentes sur c'est quoi la job de base, c'est quoi le rôle de base d'un super ministre de l'économie. C'est-tu de stimuler l'économie puis de booster les entreprises à grands coups de subventions? C'est-tu à l'inverse de faire le ménage dans tous les ministères pour réussir à nous faire économiser en tant que Québécois puis nous redonner le cash? Il y a des visions qui vont vraiment pas dans la même direction. Puis c'est ça que je voulais débroussailler un peu avec toi. C'est quoi la job d'un super ministre de l'économie québécoise, mettons?
Ben déjà, super ministre, tu sais, c'est pas un titre officiel, là, on va se le
dire. C'est la quantité de
Puis,
ministères qu'il y avait dans ses
c'est
portefeuilles.
ça.
Oui, non,
Il y
mais
en est
dis-moi que...
large, oui.
Mais là où je veux en venir, c'est que tu sais, c'est un titre un peu qu'on a créé presque pour Pierre Fitzgibbon, fait que c'est difficile de dire c'est quoi ce job-là. Ceci dit, j'ai fouillé un peu à l'historique, là, du... Il y a le ministère des Finances, hein, Éric Girard, là, il fait le budget, il donne « toi, t'as une pièce, toi, t'as une pièce », tu sais, c'est comme
Les Kings ont 8 millions, oui, on
voit,
oui, c'est...
Ouais, ben... Ça, ça, là, mais tu comprends que c'est comme le trésorier, là, c'est comme le comptable de l'État.
Oui.
Le ministère de l'économie, puis qu'on a appelé ensuite économie et innovation, anciennement, ça s'appelait le ministère du commerce et de l'industrie. Hein. C'était le ministère qui veillait à ce qu'on ait des échanges avec d'autres pays, à ce que nos business industriels locales soient performantes, bien financées. Et évidemment, à cause de la conjoncture actuelle de manque bientôt d'énergie, on a pensé, là, sous le leadership de M. Legault, que ça serait bien de rajouter l'énergie parce qu'on voulait faire de l'énergie un vecteur de développement du commerce et de l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour bien faire ça? Ben déjà, là-dessus, on ne pourra pas dire que M. Fitzgibbon n'avait pas de vision. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais je pense que la première chose qu'il faut avoir quand tu as une job comme celle-là, c'est de savoir où tu veux t'en aller, puis comme d'une façon, là, tu peux pas avoir 42 petites visions éparpillées, il faut quand même que tu aies comme une grande vision, puis je réitère, qu'on soit d'accord ou pas, M. Fitzgibbon avait au moins ça, il savait où il s'en allait. Et ensuite, je pense qu'il faut que tu maîtrises beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Moi, honnêtement, je pourrais vous parler 12 minutes de l'aluminium, mais tu sais, c'est un domaine hyper complexe, avec certaines alumineries qui possèdent des barrages, avec du développement régional. T'sais, si tu enlèves l'aluminium de Deschambault ou de Bécomeau, là, ça tue des communautés. Là, ouais. Fait que c'est pas juste une question du métal, puis de l'usine, puis l'électricité. Il y a tout un volet électoral, démocratique. Fait que tu sais, Faut que tu maîtrises tous ces dossiers-là. Puis, tu sais, je vous parle juste de l'aluminium, mais après ça, qu'est-ce qu'on sait, toi et moi, Denis, des batteries de char? Puis, c'est-tu du lithium ou du sodium? Écoute. Puis, tu sais, mais M. Fitzgibbon, toutes les personnes qui ont interagi avec lui disaient qu'il connaissait ça, mais comme à un niveau de profondeur que quasiment il avait fait un diplôme d'ingénierie là-dedans. Tu sais. Fait que là-dessus, je pense que c'était un bon candidat pour le poste. Puis, c'est là où, tu sais, là, évidemment, la question sur toutes les lèvres, qui va le remplacer?
Oui, oui.
Monsieur Legault a dit qu'il annoncerait demain la personne. Il n'y a pas 42 000 candidats. Tu sais, puis je pense que c'est des grosses chaussures à remplir. Puis ça va être intéressant de voir comment ce nouveau super ministre choisit soit de poursuivre ou peut-être de changer certaines affaires dans la vision de M. Fitzgibbon.
Et là, on rentre dans le niveau politique de la chose. Si on ben voit ouais. qu'on tourne les coins différemment, ben on aura compris que le premier ministre a peut-être donné sa vision des choses et que c'est lui qui aura eu le dernier mot vis-à-vis Fitzgibbon, mettons là.
Oui, c'est là où l'économie puis la politique, c'est difficile de diviser, hein, parce que je pense que ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que la population ne suivait pas la vision de M. Fitzgibbon. Mm-hmm. Que ce soit Nordvolt, tu l'as dit, assez impopulaire comme projet, les retards n'aident pas. La tarification de l'électricité, ça énerve pas mal tout le monde. Je réitère, moi, je suis en faveur de ça, mais je comprends que pour genre 65% de la population québécoise, c'est pas une bonne affaire. Puis M. Legault, je pense, sentait un peu la soupe chaude là, face à des décisions qui étaient des principes de M. Fitzgibbon, mais qui, démocratiquement, politiquement, étaient un peu périlleux. Et donc, c'est là où il y a peut-être eu une divergence là, entre les deux monsieur.
Hey, en terminant, vu que tu es là, Francis, on va sortir un peu du Fitzgibbon Gate pour parler de la Banque centrale canadienne qui abaisse son taux directeur d'un quart de point de pourcentage. C'est la troisième baisse consécutive. Tu nous avais un petit peu calé la shot la dernière fois qu'on s'est parlé, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait. Ben, tu sais, c'est assez évident que ça va continuer même. Là, il y a une prochaine rencontre le 23 octobre. Il risque d'y avoir encore une autre baisse de taux. Tu sais, selon tous les analystes, économistes, on va continuer sur cette lancée-là jusqu'à atteindre à peu près 3,5-3%. Là, tu sais, donc, ça va être un petit bout encore là, de bonnes nouvelles. Je l'expliquais ce midi là, à une amie. Là, tu sais, chaque baisse d'un quart de point change pas grand-chose. Je sais pas si vous avez des hypothèques, mais c'est peut-être un 50$ par mois ou selon le montant. Là, mais l'affaire, c'est qu'une baisse, deux baisses, trois baisses, quatre baisses. Si tu regardes juin 2024 puis que tu compares dans un an juin 2025, ben là, tu vas sauver 300$ par mois.
Comment ça paraît, là?
Mais à chaque fois, ça fait comme pas de différence. C'est comme le supplice de la goutte. C'est comme une petite affaire à chaque fois, mais la somme de ces petites affaires-là font du bien. Ça devrait faire du bien pour les développeurs immobiliers qui doivent financer souvent leurs projets. Ben, ça va leur coûter moins cher, fait peut-être plus de mise en chantier. Puis évidemment, pour tous les acheteurs, premiers acheteurs, gens qui renouvellent leurs hypothèques, ben, c'est des bonnes nouvelles. Ça va coûter un peu moins cher là, dans les prochains mois. Donc, bien heureux de cette annonce-là ce matin. Moi.
Francis Gosselin, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Ça fait plaisir.
Salut, à la prochaine. Francis Gosselin, docteur en économie, que vous pouvez lire, entre autres, dans le Journal de Québec. À 16h51, on a parlé beaucoup d'actualité dans la dernière heure. J'ai le goût qu'on se change un peu les idées. Et Véro, un des films les plus attendus de l'année, ben là, il y a du monde qui ont commencé à le voir. Et comment dire?
C'est 50-50.
C'est divisif.
Oui, c'est vraiment 50-50, alors que du côté de Venise, c'était le premier visionnement de Joker Folia 2 qui va prendre l'affiche au Québec au début du mois d'octobre.
Bon, c'est une comédie musicale. Première question.
Il y a des numéros musicaux à l'intérieur. Ce n'est pas qu'une comédie musicale, mais on semble être beaucoup plus vers le film d'auteur que le film grand public. Déjà que le premier film Joker pouvait sembler niché pour, entre autres, certains amateurs de cinéma d'envergure.
Pour vrai, c'est surprenant que ce film-là ait eu autant de succès. Avec du recul, tu regardes le genre de film que c'est.
Ça a été un grand succès critique plus qu'un succès véritablement populaire.
C'est normal que Deadpool puis Wolverine, ça torche les box-office. Ce film-là du Joker, c'est particulier.
Dans le bon sens. On en parle comme étant un film anarchique, effronté, audacieux, hypnotisant, un film incontrôlable, un film dégoûtant, un mélange de La La Land avec Venom, Let There Be Carnage, que c'est de loin la meilleure prestation d'actrice de Lady Gaga, puis d'ailleurs qu'un scénario plutôt faible fait qu'on l'a vraiment pas suffisamment bien exploité.
Ça, j'en doute pas.
Que le personnage qui est joué par Joaquin Phoenix de Arthur Flink, à un moment donné, on le perd. Il est même plus attachant, plus rien.
Moi, j'ai lu une critique ce midi, puis ce qu'on dit, la personne, elle dit en partant, elle dit « Moi, le premier Joker, je l'ai pas aimé, mais la force, c'était la performance de Joaquin Phoenix. »
Que là, c'est pas ça.
Là, tu dis, il est dans le siège du passager, puis il est plus dans le siège du conducteur, puis on a l'impression d'avoir perdu quelque chose
malgré
là-dedans.
Malgré tous ses efforts. Fait que c'est vraiment 50-50 des gens qui ont détesté ça, qui ont trouvé ça trop confus, trop fucké. D'autres qui disent « Hey, ça va devenir un film culte tellement que... » Le réalisateur a décidé de laisser tomber toutes les normes et tous les standards puis simplement faire à sa tête.
J'ai hâte. J'aime 90 % de ce que j'entends ou à peu près. Là, c'est sûr que Venom puis La La Land, je suis pas sûr. Mais le reste, moi, un film que tu dis qui est dégoûtant, audacieux, qui tire partout, je suis intrigué. En tout cas, le moins qu'on peut se dire, c'est que je suis intrigué. C'est au début du...
4 octobre.
Le 4 octobre.
Dans un mois, jour pour jour.
Je pense que je vais sortir au cinéma. Je l'ai pas fait encore cette année. Ça va être la première fois pour un film. Je suis allé voir le show de Ghost. Je pense que c'est ma seule sortie cinéma de l'année. Ah ouais, les films pour enfants aussi, mais ça compte pas, là. C'est pour faire plaisir aux kids.
Ça compte dans l'expérience.
Ouais, fait que, OK, j'ai vu Mario Bros, c'est-tu cette année qui était au cinéma?
Non, c'est l'année passée.
C'est l'année passée. Fait que j'ai vu Inside Out 2. J'ai vu le show de Ghost. Fait que mon premier film pour grande personne... Ou ça chante pas. Non, ça marche pas non plus. OK. Ben, coudon. j'ai hâte de voir. Mon gros point d'interrogation, c'est Lady Gaga, puis ça a l'air qu'elle vole le show.
Mais c'est une très bonne actrice.
Mais oui, ça a toujours été reconnu comme une bonne actrice.
Dans A Star is Born, dans American Horror Story, elle est excellente.
C'est pas ce bout-là. C'est pas ce bout-là. C'est le même questionnement que j'avais sur Joaquin Phoenix quand ils l'ont annoncé qu'il allait faire le Joker. Je me questionne sur le casting. Tu sais, Harley Quinn, on la connaît comme un personnage pétillant, extraverti,
excentrique,
mais c'est pas là qu'ils vont.
Non, je sais.
Comme c'est pas là qu'ils sont allés avec le Joker non plus. Tu sais, ils nous comptent une autre histoire avec les mêmes personnages, mais vraiment avec des interprétations différentes. J'ai hâte de voir.
Les auditeurs, je vous aime tellement. Il y en a plusieurs textos qui écrivent. Mais Denis, il y a une histoire d'amour dans ce film-là. T'aimeras pas ça?
Si ça finit avec un massacre et de la violence, je suis capable de faire une exception. Ouais. Ouais. Je pense que c'est une relation abusive. Il n'y a pas grand-chose de positif là-dedans. C'est ça le plus drôle. À la base, il y a beaucoup de gens qui voient ça romantique, le Joker et Harley Quinn.
Alors que c'est pas en tout ça.
Non. À la base, c'est une relation abusive. C'est une relation où tu as un manipulateur, tu as un agresseur et une agressée, tu as une victime.
C'est un syndrome de Stockholm.
Carrément. Mmh. Et dans ce film-là, de ce que je comprends, là, on change peut-être le marionnettiste pour une marionnettiste. Je suis intrigué. Très, très hâte de voir ce film-là. On s'en va dans la circulation.
Il faut rappeler que sur la 40 Ouest, à la hauteur de Duplessis, la voie de gauche et la voie du centre sont bloquées. C'est un accident. Les services d'urgence sont arrivés sur place au moment où on se parle. Vous rappelez aussi l'incident dont je vous parlais un peu plus tôt, le boulevard Bastien, la circulation qui est complètement fermée en direction est à partir de l'avenue Chauveau. Donc, le secteur qui est à éviter. Puis pour ce qui est des traversiers, fort achalandage là, entre Québec et Lévis. Donc, le temps d'attente qui est un peu plus long qu'à la normale.
Thank you. Courte pause. On revient. C'est Gravel dans le retour à Boulevard. Gravel. Boulevard.